Alors, nous allons parler d'un sujet, je pense que vous le connaissez déjà un peu, mais j'aimerais juste revenir de la réalité de notre situation en Jésus-Christ. À Madagascar, lorsque j'étais petit, j'avais élevé quelques canards, quelques poules, etc., comme ça. Et ça se faisait à l'époque où, lorsque une poule couve ses œufs, on mettait un œuf de canard. Parce que voyez-vous, le canard, il n'est pas. La canne, en tout cas, elle n'est pas patiente. Hein, donc, elle ne peut pas rester là pendant 21 jours pour attendre que ça couve. Donc, du coup, on prenait les œufs de la canne, on mettait là avec les œufs de poule, et après ça marche, ça fonctionne. Mais ce qui est étonnant, c'est que la maman poule ne se doute de rien. Hein? Ben oui, je me suis dit, mais il faut être bête pour. Et du coup, voilà, et puis elle est toute contente, elle protège le petit caneton qui vient, et puis elle l'amène même un peu là où il y a un peu d'eau, et puis elle attend sur le rivage, et je me suis dit, mais est-ce qu'elle sait qu'elle est une poule? Et qu'en principe, les poules n'enfantent que des poussins. Mais non, elle ne le sait pas. Et l'inverse aussi, le petit caneton. Voilà. Alors que la poule, c'est coq, 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 c'est pas du tout pareil, voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et même en termes de nourriture, ils mangent pas les mêmes choses. Et pourtant, personne ne se doute. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils sont réellement au fond. Je sais pas. C'est juste là, ils sont mélangés dans la masse, et puis c'est comme ça. Et des fois, nous, chrétiens, des fois, il faut revenir vers les choses essentielles que nous connaissons. Et bien asseoir qui nous sommes en Jésus-Christ, la réalité de ce que nous sommes. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions faire deux lectures. La première, c'est dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 7, donc ça va être projeté, et Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 13, nous allons lire l'un après l'autre. Donc, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. En Jésus-Christ. Deuxième lecture, Colossiens 1, 12 à 13. Il est dit ceci: Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils. De son amour. Amen. Je pense que c'est l'un des passages les plus beaux du Nouveau Testament, en tout cas pour moi, parce que ça représente ce que moi je suis en Jésus-Christ. Ça représente ce que Jésus a fait pour moi. Ça me dit que Jésus, lorsque j'ai cru en lui, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, il a complètement changé ma condition à moi. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous étions morts, il ne faut pas oublier ça. Avec le temps, des fois, on n'y pense plus. Mais notre vie sans Jésus, c'était la mort. Nous étions morts. Aucune espérance. Sous la condamnation, sous le joug du péché, la mort régnait sur nous. Et maintenant, par sa grâce, par sa puissance, sa bonté, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il nous a ressuscités. Alléluia! Il nous a donné la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et il y a la vie de Dieu maintenant qui coule en nous. Nous qui étions morts, nous sommes revenus à la vie. C'est merveilleux, hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui, ah, tu sais, dans ma vie chrétienne, je n'ai pas encore vu beaucoup de miracles. Moi, j'entends les gens témoigner, ils ont été guéris miraculeusement. J'entends les gens, ils n'avaient aucun sou, difficulté, et tout à coup, quelqu'un a frappé à la porte pour lui donner 200 euros. Waouh, c'est un miracle. Et moi, je n'ai pas trop ça, pourtant j'ai pris. Mais je me suis dit, mais le miracle par excellence, c'est quand même ça. Dieu a fait un miracle, un mort qui s'est relevé, un mort qui est revenu à la vie. C'est le miracle avec un grand L, M. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'autres. Ça nous suffit amplement. Amen. Il y a cette vie de Dieu en nous. Il nous a ressuscités ensemble, nous dit le texte. Et maintenant, ce n'est pas seulement ma condition, mais il a également changé ma position. La Bible dit, il nous a transportés. Il nous a pris d'un endroit et il nous a amenés à un autre endroit. C'est ce qu'il nous a fait. Il nous a transportés des ténèbres. Parce que lorsque nous étions morts, nous étions dans les ténèbres. Et il nous a pris de cet endroit-là noir, les ténèbres. Il nous a transportés à un autre endroit, dans son royaume. Le royaume de son Fils, nous dit le texte. Vous voyez, moi, pour venir ici, Air France m'a transporté. Bon, ils doivent revoir un peu quand même l'emplacement, parce que le genou, des fois, lorsqu'on est un peu grand, ce n'est pas évident. Hein. Mais ils m'ont transporté 11 heures de vol, et maintenant... J'étais un endroit à La Réunion et on m'a transporté. Et je suis maintenant en métropole ici, avec vous là. Bon, ma femme et mes enfants me manquent un peu. Hein. Quand même, mais je suis transporté. Mais c'est exactement ça que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Et ça, il ne faut pas que nous l'oublions. Il nous a pris des ténèbres et il nous a amenés dans son royaume. Mais où dans son royaume? Le texte, le premier texte nous dit... Que ce royaume-là, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble où? Où est-ce qu'il nous a transportés exactement? Dans les lieux célestes. Alléluia! Dans les lieux célestes. En Christ, nous sommes déjà assis là-haut. Hein? Dans les lieux célestes. Asseoir ensemble à ses côtés. Lui qui est glorifié. Ressuscité, il est monté au ciel, à la droite de Dieu, il détient toute autorité, tout pouvoir. Et maintenant, moi, il m'a pris de ma situation là, de mon endroit là, et il m'a dit, maintenant tu viens avec moi, je t'amène et je te fais asseoir là, à côté de moi. Alléluia! Et c'est déjà effectif là, aujourd'hui. Hein? Amen. Spirituellement, c'est ma condition devant Dieu. C'est ma situation, c'est ma nouvelle situation. Nous sommes assis ensemble avec le Seigneur, dans son royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça à notre voisin, quelqu'un? Voilà, tu es dans le royaume de Dieu maintenant. Tu as été transporté. Et c'est là où il faudrait pas oublier, parce que souvent nous pensons que c'est ici, c'est voilà, mais le royaume de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Pilate une fois? Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon, mes serviteurs auraient combattu. Et la terre, etc. C'est vrai que ça va de pire en pire. Les catastrophes vont arriver. Le climat ne fait pas les choses et compagnie. Mais moi, ce que je sais, que je ne suis pas de ce monde. Donc, c'est bien triste tout ça. Mais écoutez, je suis déjà là-haut. Hein, donc, c'est comme ça. C'est là où Jésus m'a placé. Et vous avez le monde là, lorsqu'on dit le monde. Le monde gît sous la puissance de qui? Ce n'est pas ici-bas le royaume de Jésus. Hein? Le monde entier gît sous la puissance du malin. On l'appelle d'ailleurs le prince de ce monde. Donc ce n'est pas ici. Hein? Ce n'est pas tout ce qui est ici. Hein? Ici, maintenant, je deviens juste un étranger. un résident temporaire, nous dit certaines traductions. Un voyageur, si vous voulez. C'est pour ça qu'on ne s'embarrasse pas trop des affaires de ce monde, etc. On apprend le contentement. Hein. Laisse-toi guider par l'essentiel. Ici-bas, pourquoi? Parce que ben, tu n'es plus de ce monde. On t'a transporté. Et si ton cœur est encore ici, attaché ici, lié avec ici, ben, il faut que tu te poses la question, est-ce que l'avion n'était pas en panne quelque part? Est-ce que tu es bien arrivé à destination? Est-ce que tu es bien, est-ce que je suis bien en métropole ou est-ce que je suis encore resté ailleurs? Alléluia! Je suis là, aux côtés du Seigneur. Je suis juste quelqu'un de passage ici. Voilà. J'ai mes quelques bagages, oui, donc voilà. Je suis obligé de me loger ici, voilà, mais viendra le moment où ma destination, je vais l'atteindre. De passage, comme ça. Et c'est pour ça que Jean nous dit, l'apôtre, hein, Jean, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Ne t'étonne pas. Vous voyez, lorsque tu es étranger dans un pays, hein, allez, vous allez en Amérique latine, et donc, voilà, ça se voit, ça se remarque, tu es étranger, tu ne parles pas la langue, et du coup, voilà, tu es bien visible. Une fois, je suis allé aux Comores, mais malgache que je suis, ben, j'étais quand même visible. Je ne parle pas comorien et en plus, je n'ai pas comme la plupart des hommes aux Comores, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle, la trace de prière tous les jours. Donc, du coup, tu es visible, ben déjà, tu ne pries pas et puis je ne porte pas le petit chapeau. Et donc, du coup, j'étais visible. Bon. On a fait des réunions secrètes aux Comores comme ça. Mais on te remarque et le monde te remarque aussi quelque part. Le monde te remarque et c'est pour ça que le monde ne te comprend pas trop parce que c'est plus les mêmes choses. On ne partage plus les mêmes mondes là. Nous vivons dans le monde, comme je l'ai dit hier, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes célestes. Ma patrie est céleste. Là où le Seigneur se trouve. Alléluia. C'est là où je m'assois maintenant. Et c'est cette réalité-là spirituelle en Christ que je dois manifester et vivre dans le monde, ici, tous les jours. Concrètement, je dois vivre ça. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Quelles sont les conséquences de cette réalité? Ça, c'est la vérité, c'est notre réalité. Et quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que je dois faire compte tenu de cette réalité-là? On va lire un texte, on va essayer de le projeter. Colossiens chapitre 3, c'est ça. Et nous allons prendre à partir du verset 3, nous allons nous arrêter au verset 4 d'abord, et après on va reprendre la lecture. Donc Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 4. Voilà, c'est ça. Si donc, hein, c'est la conséquence, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ensuite, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est tout ce que nous devons faire. Maintenant que notre vie est cachée en Christ, maintenant que nous sommes là où il est, la Bible nous dit, cherchez les choses d'en haut et non les choses de la terre. Attachez-vous, dans ma version nègre, Attachez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. Tu vois, il faut que maintenant ton cœur s'attache aux choses célestes, aux choses spirituelles, non plus aux choses terrestres de la terre. C'est plus possible parce que ta place est maintenant là-haut et il faut que ton cœur, il y a beaucoup de chrétiens qui, ils ont été transportés, mais on a oublié leur cœur ici. Le cœur est toujours là, alors que là où est ton trésor, là aussi doit être ton cœur. Est-ce que Christ est ta vie? Est-ce qu'il est tout pour toi? Est-ce qu'il est le plus beau de tous les fils de l'homme, comme nous dit le texte de l'Ancien Testament pour toi? Est-ce qu'il est tout? S'il est tout pour toi, ton trésor, eh bien ton cœur doit être aussi là où il est. Alléluia! Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Amen. Allez, on va dire amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et donc, ce que nous devons chercher en priorité tous les jours de notre vie, mais c'est ça. Les choses d'en haut, le spirituel, c'est notre préoccupation centrale. Vous voyez, il y a des chrétiens, mais je suis désolé, mais peut-être ce n'est pas ici, hein, ça doit être peut-être chez nous, qui se préoccupent beaucoup plus de qui sera élu président de la République et de quel parti, gauche, droite, que des choses célestes. Il en parle autour de « Ah ben tu vois, c'est la droite et c'est l'extrême et c'est le centre et c'est machin. » Ils se préoccupent des débats, ils font ci, ils vont dans les mouvements, ils s'impliquent, etc. Et je me suis dit « Mais tu es céleste ou terrestre, voyons ? Tu t'affectionnes à quoi ? Tu cherches quoi ? Mais si tu es là-haut, la préoccupation centrale d'abord, c'est ça, et le reste, c'est secondaire. Parce que l'essentiel, c'est là. Là où Christ est. Les valeurs de la République du ciel, c'est ça qu'on doit chercher avant tout. Le reste viendra après. Parce que je suis en Christ. Ce qui m'intéresse, je m'occupe de ma vie de prière, de ma relation avec Dieu, c'est ça que je veux, c'est à ça que je veux penser le plus. Comment est ma vie de prière? Comment est ma vie de foi? Parce que c'est ça, les choses spirituelles. Comment est mon obéissance à la parole de Dieu? Vous voyez, il y a bien des gens, des chrétiens qui pleurent pour les choses de la terre. Ah, des gens, ils ont perdu, je sais pas, 50 euros. J'ai perdu 50 euros. Il y a quelqu'un là, chez nous, hein, ici, ça doit pas exister. Hein. Et puis, elle a perdu un billet de 50 euros. Elle en a parlé. Ah, j'ai perdu. Mais tu as perdu. Elle en a parlé. Et voilà, elle s'est cassée la tête, triste, etc. Perdu. Pourquoi 50 euros quand même. Mais lorsque nous perdons notre vie de prière, est-ce qu'on est aussi comme ça? Ah Seigneur, je ne prie plus depuis une semaine chez moi. Est-ce que tu es... Ah Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Est-ce que tu te casses la tête? Mais des fois, on est quand même un peu terrestre, voyez-vous. On ne se préoccupe pas lorsque, par exemple, on ne sait plus manifester une foi ferme dans le Seigneur, lorsque on est tout le temps dans la peur, dans la crainte, face aux situations, et puis on laisse passer ça pendant des mois, des semaines, sans se préoccuper. Et moi, je me dis, mais où sommes-nous réellement? Est-ce que nous sommes réellement là-haut, avec toutes les valeurs du ciel, la vie du ciel, la vie du royaume, comme Jésus l'appelle? Où est-ce que nous sommes encore ici-bas? Alléluia. Il y a ça. Hein? Paul dit dans Romains 14, 17, on peut l'afficher. Ah, c'est beau ce texte. Romains 14, 17, en parlant de ça, il dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Là où tu es, hein, maintenant, en Christ, le royaume, là où tu as été transporté, ça n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu vois. Celui qui s'affectionne aux choses d'en haut, c'est ça, tu vois, le manger, le boire, etc. Mais moi, je dis toujours aux gens, si tu peux acheter un appartement, une maison, fais-le si tu as les moyens. Et si tu n'arrives pas à le faire, c'est pas grave. C'est pas le manger, le boire, c'est pas le matériel. Si tu peux acheter une belle voiture, ben tant mieux. Si tu as une voiture un peu vieille, mais tant que ça roule, ben c'est bon aussi. Parce que c'est pas le manger et le boire. On se casse trop la tête pour les choses passagères. Quelqu'un a dit, voyez-vous, lorsqu'on quittera la terre, il n'y aura jamais un camion de déménagement derrière. Hein, où je peux amener et la belle voiture, et la montre, et ceci, et cela. Non. Donc l'essentiel, c'est les choses d'en haut. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Voyez-vous les chrétiens qui courent après la richesse, l'argent, « Sers Jésus, tu vas être riche, tu vas être machin. » J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Jésus n'est pas mort pour que nous devenions riches. Il est mort pour que nous puissions nous ressusciter en lui et être transportés dans son royaume. Vous savez, Abraham était déjà très riche. Jésus n'était pas encore mort. Donc si c'est juste pour nous donner de la richesse, le Fils de Dieu n'aurait pas été crucifié. Hein. Ah, c'était une affaire de, allez, que la richesse apparaisse, et juste ça. Mais le prix qu'il a payé, c'est beaucoup plus que ça. Pour que nous ayons cette vie-là, ce pardon, cette résurrection, cette vie de gloire. Hein. Ces richesses spirituelles en Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Préoccupez-vous des choses d'en haut. Une vie d'amour, de paix. Est-ce que tu es comme ça? Ça, c'est la vie du royaume, là où tu es. Est-ce que tous les jours, il y a une chrétienne qui m'a vu au supermarché? Ça n'existe pas chez vous, tout ça. C'est chez nous, voyez-vous. Nous, on doit encore... bien, voilà, lorsque j'étais chez Alexis, je me suis dit, mais c'est le ciel dans cette maison. Mais c'est un homme du ciel. Lorsqu'il parle avec ses enfants, sa femme, je me suis dit, wow, c'est la vie du royaume ici. Mais chez nous, c'est pas encore ça, des fois, tu vois. Et puis, il y a une chrétienne qui m'a rencontré au supermarché. Et puis, je souriais en la voyant. Il n'y a aucune raison. Bon, c'est vrai que la vie est dure, mais montrez quand même vos dents. Et puis, j'ai souri. Et puis, bonjour, ça va? Et puis, ah ben, il n'y a que toi qui souris ces temps-ci. Hein. Mais je me suis dit, mais on est terrestre ou céleste? Notre joie dépend de notre porte-monnaie ou ça coule, ça vient du Saint-Esprit, c'est la joie du salut. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia! Mais des fois, c'est la terre, c'est les choses. Et puis, vous voyez, on est en pleine crise. Oui, on n'arrive pas à boucler les fins du mois des fois. Eh bien, c'est pas grave. Des gens ont connu pire que nous. N'allons pas nous plaindre. Hein? Dans d'autres mondes, dans les autres continents du monde, il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger comme nous mangeons. Mais voyez-vous, contentons-nous de ce que nous avons et occupons-nous plutôt des choses spirituelles. Vivons la joie du Seigneur, la paix du Seigneur. Vous voyez, ce que le monde a besoin, ce sont des gens comme ça. Hein, qui peut-être n'ont pas tout. Parce que lorsqu'on parle d'avoir tout, les gens du monde ont beaucoup plus que nous, hein. Lorsque tu parles d'un Bill Gates, t'es rien à côté, hein, même pas un grain de poussière à côté. Mais ce qu'il n'a pas, c'est cette joie, cette paix du Seigneur, cette capacité pour toi, comme le dit Vincent, cette capacité pour toi d'être increvable. Increvable, malgré tout. Un peu Paul, là, il a été secoué, etc. Mais c'est quelqu'un du royaume, tu vois. Celui qui est dans le royaume de Dieu est increvable. Il tombe, il se relève. Tout peut arriver, il tient le coup par la foi en Christ. Et c'est ça que ce monde a besoin. C'est pas forcément quelqu'un qui a tout et tout coule comme l'eau de source. Mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, et puis c'est étonnant, mais comment ça se fait? Mais regarde, on l'a fouetté, on avait, regarde, ils ont quand même dans la joie, et il est en prison depuis, je ne sais pas, un certain temps, il arrive quand même à écrire Philippiens 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, je le redis. Mais je me suis dit, ça, c'est quelqu'un dans le royaume. La joie du Seigneur est sa force. Cette paix de Dieu, cette vie de Dieu, la vie de justice, de vérité. Préoccupons-nous de tout ça, les amis, parce que notre royaume, c'est ça. Paul dit dans un autre texte, 1 Corinthiens 4:20, mais on ne va pas projeter, c'est assez court, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est ça qu'on doit chercher le plus, tu vois. Dans le monde, c'est les paroles, c'est les discours, c'est voilà qui, et puis c'est les débats et machin, et c'est voilà, mais vous êtes... Ça, c'est pas nous, parce que nous ne sommes pas dans ce monde. C'est la philosophie du monde, c'est terrestre, mais le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance. C'est la puissance, c'est le Saint-Esprit, tu cherches la puissance. Est-ce que tu es quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu tous les jours? Est-ce que tu cherches le Saint-Esprit tous les jours? Est-ce que tu as une relation forte avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu? Ça, c'est la vie du royaume. Et c'est ce que tu dois rechercher plus. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, ah, ce que tu dois rechercher le plus, c'est ça. Lorsque je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit, je me souviens un soir, ah, mais je me suis dit, ça m'a cassé la tête, cette histoire. Ah, pourquoi eux et pourquoi pas moi? Et puis voilà, et puis ça me tournait, et puis voilà, et je me suis dit, ah, je vais crier comme tout le monde parce qu'il paraît on crie, et bien ah, et ça ne marchait pas, je savais pas, mais je voulais chercher, tu vois, une vie de puissance. Je suis un fils du royaume. Et quelqu'un s'est approché de moi en disant, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit un mardi soir? Non. Puis il a dit, non, allez, il a imposé un peu comme ça les mains, voilà. Être vie de puissance que tu entretiens tous les jours. Amen. On se préoccupe de trop de choses et on oublie la puissance. Vous savez, j'ai rien contre les démons, hein. Je veux dire, mais il y a des chrétiens qui étudient plus le nom de tel ou tel esprit et de voilà, voilà, que de chercher la puissance du Saint-Esprit pour vaincre tout ça, tu vois. Moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a donné une liste. Voilà toute la liste du nom des démons qui existent. Et je vous assure que c'est une longue liste. Et donc, il fallait les chasser un par un, partout où ils sont. Il y a le démon de la gourmandise. Il y a le démon lorsque tu es fatigué, l'esprit qui machin. Et puis, et je me suis dit, mais on se focalise là. C'est voilà. Moi, ma vie du royaume, c'est la puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est ça la vie du royaume. Alléluia. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Hein. Veillez, le lion rôde, le diable rôde. Mais n'oubliez pas, le royaume, c'est la puissance. Ce n'est pas la parole. Et Jésus, d'ailleurs, à ce sujet, il a dit, le prince de ce monde vient... Et la suite, je me suis dit, oh, j'aimerais bien dire ça aussi, Seigneur. Il n'a rien en moi. Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. On peut regarder, on peut me faire passer un scanner, un IRM, comme vous voulez. Il n'y a rien en moi qui soit de ce monde, qui soit lié au prince de ce monde. Voilà, toute ma vie... C'est spirituel, c'est céleste. Il n'a rien en moi. La plus grande joie du chrétien, ça doit être de dire ces mêmes paroles de Jésus. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Moi, dans ma maison, il n'y a rien. Ce sont des choses de Dieu chez moi. Dans ma voiture, il n'y a rien. Dans mon cœur, dans mes pensées, partout, il n'a rien en moi. Et le malin ne le touche pas, nous dit Jean d'ailleurs. C'est ça que nous devons chercher. Est-ce qu'il y a encore des affaires du monde quelque part qui peuvent traîner, hein, dans nos greniers, dans certains cartons oubliés, dans les recoins de nos maisons? C'est ça qu'on doit détecter. chercher. Il n'a rien en moi. Colossiens, tout à l'heure, on a lu jusqu'au verset 4, mais on va faire un peu à partir du verset 5. Et regardez, ça aussi, c'est merveilleux. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Vous voyez, lorsqu'on était dans les ténèbres terrestres, liés par toutes ces choses, Jésus nous a transportés. Et maintenant, une fois que nous sommes là, à ses côtés, dans le royaume, dans les lieux célestes, nous ne pouvons plus apporter ces choses. Nous ne pouvons plus permettre que ces choses revivent. Il faut faire mourir. Il faut les crucifier, mourir. En fait, nous sommes tous appelés à être des tueurs de choses. Tuer les membres qui sont sur la terre. J'ai dit hier avec les jeunes ici, il y a quelqu'un qui m'a appelé, une bonne femme. Et elle m'a appelé en pleurs. Et je n'ai jamais vu cette femme pleurer comme ça. Elle a pleuré. Ah, pasteur. Bon, elle n'est pas dans notre assemblée, heureusement. Et puis elle m'a appelé, et puis ah, je suis triste, j'ai lu l'Ancien Testament, et puis je vois, mais pourquoi Dieu il a dit de tuer même ses bébés, et tu vois là, elle était triste, et puis c'est quoi ce Dieu sanguinaire, je ne comprends pas, mais pourquoi, c'est pas un Dieu d'amour, et elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, inconsolable la pauvre, inconsolable, j'ai fait tout pour la consoler, inconsolable. Plus je parlais, plus elle pleurait encore. Mais ce regard-là, c'est le regard de la chair. C'est le regard de la chair. Maintenant, lorsqu'on regarde les choses en esprit, parce que c'est l'esprit qui vivifie. Hein? Mes paroles, l'a dit Jésus, c'est esprit et vie. Lorsqu'on regarde, mais c'est la même chose pour nous, non? Nous devons exterminer tous les membres qui sont encore terrestres. Aucun survivant. Comme le châtiment que les pécheurs ont dû subir, puisque Dieu est un Dieu juste. Et heureusement qu'il a d'ailleurs fait aussi, extermine même les nouveau-nés. C'est une grâce pour eux de ne pas avoir grandi dans une vie de péché, comme leurs parents. C'est une grâce de Dieu. Même dans le jugement, il y a une grâce. Moi, je vois ça, je dis, quelle grâce, Seigneur. Ils auraient pu vivre et faire autant de péchés que leur père. Mais Dieu a fait grâce, même tous les petits. Comme ça, au moins. Ils n'auraient pas pu faire. Mais spirituellement, lorsqu'on regarde, c'est la même chose pour nous. Ne laissant aucun. Et là où le peuple d'Israël a failli, c'est qu'ils n'ont pas tué tout le monde. Ils ont laissé vivre quelques-uns. Et c'était pour eux comme une écharde dans la chair. Ça les a détournés de la vie du royaume. Ce qui a amené à leur perte d'ailleurs. Ils ont été exilés à cause de ça. C'est là où Saül a failli. Dieu a dit, tu tues tous les Amalèques, tous, sans exception. Il a préservé le roi quand même. Faites donc mourir tous vos membres qui sont sur la terre, tout. Tout ce qui est lié à notre ancienne condition, tué. Aucun état d'âme. Paul dit, je traite durement mon corps. Non pas pour être sauvé, puisque nous sommes sauvés par la grâce, voyez-vous. Mais c'est plus convenable. Là où je suis, ce n'est pas ça les valeurs. on m'a transporté dans un monde avec d'autres valeurs et je ne peux pas venir avec mes valeurs à moi. Ce n'est pas possible. Sinon, je ne suis pas encore transformé. Sinon, je ne suis pas encore une nouvelle créature. Sinon, je ne suis pas encore celui qui a cette semence de Dieu. Tu es. Vous savez, Élie, avec les prophètes de Baal, étonnant. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Dieu avait répondu par le feu. C'est glorieux, merveilleux. Mais il n'a pas fini là, l'affaire. Il a dit, encerclez-les tous. 850, hein, si vous lisez bien le texte. 400 Baal et 450 Astarté, je crois, les faux prophètes. Là. Encerclez, ne laissez échapper un seul. Pas un seul. Et tuez-les tous. Égorgez tous. Bon, spirituellement, c'est ce que nous devons faire. Ne laisse échapper un seul. Il n'y a pas un petit péché mignon, hein? Parce que c'est ça qui va détruire cette vie spirituelle. Vous savez, si vous avez même 50 000 pommes, bon, comme Chanel sur la table, jolies pommes du Nord. S'il y a juste une seule pomme pourrie, est-ce que le pourri va être transformé ou c'est le pourri qui transforme les autres? C'est pour ça que vous ne devez rien tolérer. Même pas un seul. Tout ce qui est terrestre, voilà. La liste est là, hein? Donc il faut assassiner ça tous les jours. Voilà la débauche. Le mensonge. Seigneur! Comment ça se fait que je dis encore quelque chose qui ne correspond pas à la... il faut assassiner ça. Mais comment on fait que mon cœur, là, Seigneur, il faut assassiner ça. Il faut crucifier. Et moi, je vois dans les paroles de Jésus, tu amènes ta croix. Ce n'est pas tes difficultés et tes machins. Mais si tu amènes ta croix tous les jours, c'est quelque part, tu dois crucifier quelqu'un tous les jours aussi. Voilà. La croix, c'est ça, non? Tu crucifies, tu tues comme ça, tu es. Tous. Et comment? Puisque, comme Pierre l'a dit, il y a ce beau texte, Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, et il est dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Il y a la puissance de Dieu en toi. Cette divine puissance a donné tout pour que tu puisses mener ici-bas une vie de piété, une vie d'obéissance, une vie de vérité, une vie d'amour, une vie du royaume. Il y a la puissance de Dieu. Ce n'est pas nous, ça. Ce n'est pas possible. Mais c'est cette vie de puissance. Donc maintenant, soyons soumis aux directives de l'Esprit qui nous donne cette puissance. Voyez-moi, j'ouvre grand les yeux lorsque la Bible me dit que la puissance de celui, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en moi. Je me suis dit, quoi? Donc tout doit revivre. Je peux résister à tout, je peux vaincre tout, puisque vous imaginez l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Sa divine puissance. Et comme Alexis l'a si bien dit hier avec les jeunes, maintenant, il faut décider de vivre ça. La force, tu ne l'auras pas. Oh, parfois même la volonté, Dieu nous fait un peu grâce, il nous donne le vouloir et le faire. Mais c'est juste le fait de dire, allez maintenant, céleste maintenant. C'est fini terrestre, fini ça. Fini. Il faut se dire des fois à soi-même, non, cette colère-là qui n'est pas du tout légitime, non. C'est terrestre ça, c'est fini ça aussi. Je veux dire quelque chose de bon à mon mari. Je veux dire quelque chose de beau à entendre. Parce que je suis quelqu'un du ciel. Et aussi longtemps que Dieu me permet de vivre ici-bas, je porterai ça. Vous voyez, comme des ambassadeurs de Jésus ici. Les ambassadeurs ne sont jamais appelés à vivre définitivement au pays étranger. Hein. Ils sont là pour représenter leur nation. Ils sont là pour défendre les intérêts de leur pays. Ils sont là pour faire avancer la cause de leur pays, leur gouvernement. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à la nation étrangère. Sinon, ils ne seraient pas des ambassadeurs, ils deviendraient des traîtres. Et combien de fois les chrétiens se transforment en traîtres spirituels? Ils défendent mieux les causes du monde, ils vivent un peu plus pour le monde, au lieu de vivre pour Dieu, pour l'Évangile, en tant qu'ambassadeur. Tu es un envoyé de Dieu ici-bas, c'est notre seule raison d'être ici, sinon le Seigneur nous aurait déjà pris depuis longtemps. Vous imaginez les combats qu'on doit vivre ici, le malin ne nous lâche pas et compagnie. Si Dieu fait, pèse le pour et le contre, il aurait pu nous dire, bon, maintenant que tu tiens bien, ferme, monte. Mais il a besoin d'ambassadeurs pour représenter, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui doivent venir dans le royaume. Il y a encore beaucoup de gens qui doivent encore entrer dans la bergerie. Et nous sommes là pour eux, manifester cette fille de Dieu pour les attirer. Nous sommes comme une ville située sur la montagne, visible comme ça. Et les gens viennent à Christ par notre biais, par nous. Et nous faisons tout pour faire avancer le royaume de Dieu, ici. Paul nous parle de ses collaborateurs qui travaillent pour le royaume de Dieu avec lui. Et soit également ça. C'est tout ce que nous sommes. C'est assez simple, non? Nous sommes dans le ciel, vivant conformément à la vie du ciel, à la vie du royaume du Seigneur, et comportons-nous comme de véritables ambassadeurs ici-bas. Et votre vie ici-bas, ne vous inquiétez de rien. Faites ce que vous avez à faire, travaillez, bossez et placez votre confiance et votre foi en Jésus. Hein? Même si la crise va se multiplier par 7, vous aurez toujours de quoi manger avec le Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Amen.